Rencontre avec.
Aujourd'hui, dans le cadre de notre BAT émission, rencontre avec Xavier Fournier, donc, qui est l'auteur du livre Super-héros, l'envers du costume. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes là pour parler du caractère un peu de Batman. Déjà, en quelques mots, comment vous définiriez ce super-héros ?
Alors, on parle d'un personnage qui a 80 ans et qui a vu se succéder un certain nombre de scénaristes et de réalisateurs, de dessinateurs. Donc forcément, ça dépend aussi de quel Batman vous parlez. Si vous parlez du Batman de la série télé des années 60, qui est un petit peu délirant, finalement assez positif, c'est un trait de caractère, c'est net et certain. Si vous parlez du Batman plus crépusculaire, qui est en train de rôder la nuit sur des toits alors qu'il pleut et en train de chasser des serial killers, c'est pas la même vision du monde, on va dire. Mais globalement, si on revient aux bases du personnage, c'est quand même un type qui décide que la société ne fonctionne pas comme elle devrait et qui, après avoir vu, bien entendu, une tragédie familiale que tout le monde connaît finalement à travers au moins les adaptations, ce type-là décide que, au lieu de rester riche dans son coin, dans son manoir, il va aider la société de la manière qu'il peut, en fait, en devenant une sorte de super limier, de bat limier, plutôt, on va pas aller sur le terrain de Superman, pour aider Gotham, qui est une ville qui est complètement ravagée par le crime. Donc c'est plutôt, il y a un aspect de civisme, plus que de vengeance même, qui est dans le personnage.
Mm-hmm. On a vu tout à l'heure que Batman se servait plus ou moins de la chauve-souris pour faire peur. Lui-même a peur de la chauve-souris. Quel est son caractère finalement à Batman ?
Alors, c'est ça à la base, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'il se sert de la chauve-souris vraiment pour faire peur, c'est confondu avec plein de choses. Les premiers mois, dans la bande dessinée de Batman, il a même pas d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui a beaucoup évolué au fil des années, et dans les premiers épisodes, c'est jamais qu'une sorte de Sherlock Holmes qui est déguisé en chauve-souris, on ne sait pas très bien, et il n'explique même pas le fait que Bruce Wayne a perdu ses parents quand il était jeune. Et puis au bout de quelques mois vient quand même dans l'idée des scénaristes le fait que bon ben il y a ce type déguisé en chauve-souris, on sait pas bien pourquoi, va falloir l'expliquer, et on le montre d'abord frappé par cette tragédie familiale, et puis à un moment, à l'âge adulte, en train de se décider à devenir un justicier, et il y a ce moment, ou alors qu'il est en train de réfléchir dans son manoir, il y a une chauve-souris qui passe par la fenêtre, et Bruce Wayne se dit, puisque c'est ça, je deviendrai une chauve-souris. Et je pense qu'il a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas d'autre chose qui soit passée par la fenêtre ce soir-là. Mais le truc, c'est que on va greffer sur cette origine qui paraît simple, on va greffer des choses au fur et à mesure, et on va expliquer effectivement que, en particulier à partir des années 80 et d'une nouvelle version des origines par un monsieur qui s'appelle Frank Miller, on va expliquer qu'il est tombé dans la Batcave, qu'il a été terrorisé par ça. C'est aussi quelque chose qui avait été vu un petit peu sous-entendu dans les films de Tim Burton à la fin des années 80, et on va en rajouter au fur et à mesure qu'on va rentrer là-dedans, et le traumatisme de la chauve-souris à l'enfance il va devenir un peu énorme. À la base, Batman n'était pas un personnage qui était si traumatisé que ça par la chauve-souris, et c'est plutôt, selon ses mots, l'idée c'est de dire voilà, je me déguise en chauve-souris parce que les criminels sont une foule de superstitieux, et quand ils vont me voir en chauve-souris, ça les fera pas de terreur.
J'ai l'impression que plus on avance en fait dans l'histoire de Batman à 80 ans, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus Batman devient un personnage noir, sombre, avec peu d'empathie, je me trompe?
Alors ça dépend. Il y a ces deux pôles, hein. Tout à l'heure je parlais du Batman un petit peu prime sautier, on va dire, de la série des années 60. Il y a une espèce de va-et-vient entre ces deux pôles. Il y a le côté optimiste et le côté un peu plus martial. Il est clair que quand on regarde vraiment à la base, quand on enlève le vernis de tous ces super vilains qui ont l'air de clowns délirants, mais qui en fin de compte sont quand même des serial killers à la base, la vie à Gotham City est pas très. Je pense que vraiment ils doivent faire des prix sur le loyer, parce que sinon je pense que personne ne veut habiter à Gotham. Et le truc c'est que et donc effectivement il y a des moments, il y a des périodes dans la vie de Batman où il n'a pas forcément des grandes raisons de rigoler, et il y a des moments aussi où c'est un peu plus léger, et on va dire que chaque vague quelque part justifie l'autre. C'est-à-dire que quand Batman a paru pendant quelques années dans la BD un peu trop invincible, un peu trop inflexible, eh ben en général le scénariste qui vient derrière, qui va reprendre pour quelques années la série, va aller plutôt dans l'autre sens. Donc il y a une sorte d'équilibre là-dedans. En fait, d'un autre côté, c'est jamais que l'illustration du fait que les super-héros en particulier, et Batman aussi, c'est que ils ont une binarité, ne serait-ce qu'il y a Bruce Wayne et il y a Batman, et il y a il y a toujours ce côté un petit peu entre deux visions du monde en train de se disputer dans les super-héros, et Batman n'y échappe pas.
D'accord, ok. Alors, concernant Batman, au niveau de son caractère, moi j'aimerais... alors, Batman, on le sait tous, c'est Bruce Wayne, donc quelqu'un de riche, dû à ses parents.
Ça y est, vous l'avez démasqué à la radio ?
Oui, je l'ai démasqué à la radio, je suis désolée, je romps son anonymat. Comment dire ? Est-ce que vous voyez une double personnalité ? Est-ce que quand il a son masque, c'est une toute autre personne que dans la vie quotidienne ?
La vraie question qui est soulevée dans la BD et dans certains des films d'ailleurs, c'est que lequel est le masque en fait ? C'est est-ce que Bruce Wayne met un masque de chauve-souris pour aller terroriser les gangsters à Gotham, tel qu'il le dit dans les premiers épisodes de la BD, ou est-ce qu'au contraire, finalement, il est tout le temps Batman, et Bruce Wayne n'est jamais qu'un alibi qui lui sert à rester Batman. Et on en est là, c'est-à-dire que dans plein d'épisodes, en particulier vers la fin des années 60, au moment où le personnage atteint un pic de popularité, les gens lisent la BD beaucoup plus pour suivre les aventures de Batman que pour avoir des anecdotes sur la vie personnelle de Bruce Wayne. Donc, quelque part, il y a ce côté, le fait aussi que les relations des publics avec l'image de l'homme riche, ça ne va pas être pareil dans les années 40 ou dans les années 50, où il y a des ambitions auprès de la société. Enfin, je veux dire, l'Amérique voudrait être l'homme riche, prétend que le système va récompenser les valeureux et qu'on va tous tendre à ce système-là. Et après, à partir des années 60, quand il y a un doute qui rentre dans la société américaine, il y a un moment où l'image de l'homme riche, c'est pas la même, ne serait-ce qu'en ce moment aux États-Unis, le milliardaire a pas la même réputation qu'avant, et donc, on va un peu déconstruire cette figure du milliardaire Bruce Wayne et expliquer que ce n'est qu'un masque. Le vrai personnage, finalement, c'est ce type qui est complètement épris d'aller tout le temps faire régner la justice dans les rues de Gotham, et qui est obligé de la pointe des pieds de faire cette mascarade et de tenir un dernier fil à la patte avec la réalité, de faire semblant d'être un milliardaire complètement premier degré, voilà, qui n'a pas vraiment de conscience, pour financer ses activités en tant que Batman.
Donc, selon vous, Batman est le masque de Bruce Wayne, en fait ?
Plus ça va, plus c'est le contraire, en fait. Plus ça va, plus en fait, Batman est le vrai personnage et Bruce Wayne est le masque. Et c'est quelque chose qu'on voit bien, en particulier à travers les films de Christopher Nolan, la trilogie de Christopher Nolan il y a quelques années, où fondamentalement c'est un visage Bruce Wayne, mais c'est le pied-à-terre des activités de Batman, quoi. C'est la vitrine, et en fait derrière il y a Batman qui réfléchit et qui pense à 24 heures sur 24.
Alors, justement, vous avez édité un livre super-héros, l'envers du costume. Pour vous, c'est quoi l'envers du costume de Batman?
On pourrait dire en l'occurrence que c'est l'incapacité à mener une vie quotidienne. Et ce qui s'explique très bien dans la BD finalement, parce que on a ce type qui est traumatisé, qui a perdu sa famille et qui se construit entièrement autour du manque de sa famille. Mais quand on regarde dans la bande dessinée, et puis dans la plupart des adaptations, vous avez aussi ce type-là qui n'a pas de vie normale. C'est-à-dire que quand on le voit manger, c'est qu'en général, ça sert à un de ses plans. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille manger avec un type riche qui va lui apprendre des informations. Il n'a pas d'intérêt à faire des scènes de la vie normale. Et le seul petit fil à la patte qu'il a là-dessus, par exemple, c'est le personnage de Alfred, qui s'est rajouté, qui n'était pas là au début dans les premières scènes de la bande dessinée. Le personnage d'Alfred qui désespérément essaie de lui descendre de la nourriture dans la Batcave en disant c'est bon, vous avez assez vos dossiers, vous pourriez au moins manger. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que Batman, c'est aussi le refus d'une vie normale. Voilà, une sorte de traumatisme qui fait que Batman, de toute façon, qu'on l'appelle Batman ou Bruce Wayne, a complètement occulté le fait d'aller faire ses courses, quoi, voilà.
J'aime bien l'idée de refuser une vie normale, refuser la vie quotidienne quelque part. Alors justement, vous avez commencé à parler d'Alfred, moi j'aimerais commencer à parler de ses alliés, de son entourage, mais aussi de ses ennemis.
Ouais.
Comment ils influencent Batman au fil du temps, dans son caractère, toujours rester dans le caractère de Batman, quelles sont ses influences en fait?
Eh bien, justement, le premier qu'on est obligé de citer dans cette liste-là, en ordre d'importance, je dirais que c'est Robin. Parce que Robin, qui est le jeune compagnon de Batman, qui porte un costume coloré, jaune, rouge, vert, il a été rajouté une petite année après le début de Batman, parce que les éditeurs se disaient qu'effectivement, Batman avait l'air d'un personnage lugubre, qu'il lui fallait de la couleur un petit peu dans son univers et qu'il lui fallait surtout quelqu'un à qui parler pendant ses aventures, parce que même s'il avait déjà le commissaire Gordon qui est là depuis le premier épisode, le commissaire Gordon parlait surtout finalement à Bruce Wayne, mais n'accompagnait pas Batman dans ses aventures. Et le fait de rajouter un enfant qui sert d'assistant à Batman, au premier degré ça peut sembler ridicule, on se dit qu'est-ce qu'il a besoin d'emmener un enfant de 8 ou 12 ans dans des aventures dangereuses en contact avec les criminels. Et ben, en même temps, la vraie préoccupation des éditeurs, c'est de dire, on va lui donner un personnage qui est plus naïf, plus positif. Alors, au niveau du scénario, ça permet plein de choses, parce que Robin est plus faillible que Batman, et bien souvent, ça sera Batman qui sera obligé de sauver son auxiliaire. Et puis, il devient aussi, d'une certaine manière, le père adoptif de Robin, et il est obligé de revenir vers ce côté familial auquel il se refuse. Donc on entre à ce moment-là dans une espèce de discussion incessante avec un enfant qui regarde Batman comme un père, et Batman qui est plutôt dans une négation de la famille. Là, je fais un peu de la psy très poussée, parce qu'à l'époque dans les années au tout début des années 40, les histoires font 8 pages, les auteurs en pensent pas si long, mais globalement sur la longueur, c'est ce qui va permettre de donner un petit peu cet élan à la série. C'est-à-dire que ne serait-ce que parce qu'il y a un enfant qui est admiratif de Batman, qui est capable d'être beaucoup plus enjoué que lui, ça fait que d'un seul coup Batman est aussi obligé de regarder en dehors de son périmètre personnel. Il est obligé de regarder, il est obligé d'arrêter de se regarder dans le miroir et de penser aussi à ce gamin qui, à partir de ce moment-là, partage sa vie dans le manoir Bruce Wayne. Ça, c'est le premier allié en ordre d'importance. Le deuxième, ça serait sans doute le commissaire Gordon, dont j'ai déjà parlé.
Ouais.
Commissaire Gordon qui est là pour donner finalement un peu l'émission, c'est-à-dire que c'est lui qui appuie sur le fameux bat signal et dit bon, on a un problème, on n'arrive pas à coffrer ce type-là, est-ce que vous pouvez le faire pour nous? La petite histoire rigolote, c'est que le scénariste de Batman, le premier scénariste de Batman qui s'appelait Bill Finger, c'est un fou de romans policiers, et il a fait une espèce de petit clin d'œil, c'est-à-dire que le commissaire Gordon, il a volé un autre roman.
D'accord.
Un roman policier et une série de romans policiers où dans lequel il y a un justicier qui s'appelle le Murmureur, et c'est un type qui est habillé en gris, avec un costume gris, qui va rôder dans les rues pour faire la justice, et ce type s'appelle Jim Gordon, et il est policier dans la vie de tous les jours. Donc la petite blague que le Bill Finger avait glissée dans les premiers épisodes de Batman, c'est que fondamentalement, il avait mis un super-héros à la retraite comme commissaire.
Mmh. Okay.
Chose à laquelle on n'a plus jamais fait allusion après. Je pense que la plupart des scénaristes de Batman ne savent même pas que le commissaire Gordon avait servi à autre chose avant.
Et puis,
j'ai envie de dire qu'en troisième position dans les alliés, mais alors c'est une alliée un petit peu quand elle veut, suivant son caractère, on a Catwoman qui va jouer aussi un rôle parce que dès 1940-41, il y a cette espèce d'ébauche d'arrivée de la sensualité dans la bande dessinée de Batman. Pour vous dire un truc, les trois premiers épisodes de Batman, il n'y a pas un personnage féminin.
D'accord.
Vous n'avez même pas un personnage très secondaire à faire valoir. Vous n'avez pas de serveuse, vous n'avez pas de secrétaire. Vous n'avez que des policiers, vous n'avez que des hommes. Il n'y a pas de figurante dans la rue à Gotham. Dans les trois premiers épisodes de Gotham, vous n'avez que des hommes.
D'accord.
Parce que. Une fois encore, je vous le disais tout à l'heure, les histoires faisaient 8 pages et ils ont mis tout ce qui était nécessaire à l'avancée policière de l'histoire, mais ils n'ont pas pensé à montrer une ville mixte. Et après, ça va leur jouer un petit peu des tours, en particulier à partir du moment où Bruce Wayne va élever Robin dans son manoir. Il y a des lecteurs, des associations de moralité qui vont penser que c'est un sous-entendu homosexuel, et en plus, dans les années 40, ça ne veut pas dire la même chose que maintenant, c'est vraiment un truc considéré comme sulfureux à l'époque, et les éditeurs vont se dire, bon, il faut un petit peu qu'on montre un Batman dans un monde mixte, et il va y avoir cette Catwoman qui est intéressante par rapport à lui dans un autre sens, c'est-à-dire que c'est une criminelle, et les premières décennies, c'est une criminelle. Et en même temps, il y a quand même une attirance entre les deux, et il y a même un ou deux épisodes où on comprend que Batman, il a un peu la main tranquille, quoi. Il la laisse partir, il la laisse échapper, il est pas trop pressé de l'emprisonner, sous les yeux éberlués de Robin, qui lui comprend pas du tout et qui se demande ce qui se passe.
Ok.
Donc voilà, et toujours on en revient à cette idée, Batman qui s'interdit un petit peu le bonheur familial, dans ce coup il a une femme dans son périmètre, et on comprend bien que cette femme-là et lui finalement pourraient former quelque chose plus tard.
Mmh. Au niveau des méchants, des méchants que Batman va conquérir, est-ce qu'il y a un méchant qui va particulièrement, enfin j'en ai un en tête, mais est-ce qu'il y a un méchant qui va influencer Batman dans tout le reste de son histoire finalement?
Je sais celui que vous avez en tête. Je pense que mes dons télépathiques me permettent de deviner que c'est un type qui a un peu les cheveux verts peut-être.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Il y a un truc qui est rigolo là-dedans, c'est que, en fait, si vous regardez bien, moi j'avais fait beaucoup de recherches pour un autre bouquin là-dessus, sur les super-héros français. Quand on regarde bien les racines, les modèles initiaux de Batman, Umberto Eco avait été remonté un petit peu dans le temps et avait expliqué que, fondamentalement, quand on regarde bien, le comte de Monte Cristo, c'est l'ancêtre de Batman. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lui rajoutez un costume de chauve-souris, le comte de Monte Cristo, il a tout le reste. Il a la vengeance personnelle, il a des espèces de QG souterrain, il a la possibilité de prendre des identités multiples. Et voilà, c'est un Batman qui s'ignore, le comte de Monte Cristo. Mm-hmm. Et inversement, le Joker, puisque c'est lui dont on parle, il va naître indirectement à un moment où d'abord on se dit la bande dessinée elle est assez sombre, il faut des personnages plus colorés, c'est déjà ce qu'a généré Robin dans la BD, donc on veut un personnage qui a un air de clown. Et on s'inspire d'un acteur d'un acteur américain qui adaptait à l'écran l'homme qui rit de Victor Hugo.
Mm-hmm.
Et on s'inspire de ça pour créer un personnage qui rigole quoi, mais qui est en même temps sinistre. Ce qui fait que fondamentalement, quand on regarde bien, dans Batman, il y a un petit peu de, il y a un petit peu d'Alexandre Dumas. Et dans le Joker, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de Victor Hugo. Donc, fondamentalement, quand vous voyez les aventures de Batman et face à, au Joker, il y a, dites-vous qu'il y a, il y a un petit peu Alexandre Dumas et Victor Hugo qui se tapent sur la figure. Maintenant, le vrai truc, c'est le vrai truc étonnant, c'est que le Joker n'était pas censé durer. Ils ont créé, par la force des choses, parce que les aventures de Batman fonctionnaient très bien dans une anthologie qui s'appelait Detective Comics, et il y a au bout de quelques mois, comme tous les gamins dans les kiosques demandaient le magazine de Batman, mais qu'il n'existait pas vraiment un magazine avec le logo Batman sur la couverture. Ils se sont dit, on va créer une seconde série qui va s'appeler tout simplement Batman, où il n'y aura que les aventures de Batman. Et dans cette série-là, pour remplir dès le premier épisode, ils créent dès le premier numéro, dans ces différentes histoires, il y a l'apparition du Joker et l'apparition de Catwoman. Mais le Joker semble mourir à la fin. C'est-à-dire que, voilà, on l'a vu dans deux épisodes, et puis il meurt à la fin du combat, parce que tout simplement, à l'époque, on n'imaginait pas forcément faire revenir des personnages comme ça. Et l'éditeur, à la dernière minute possible, dit aux auteurs, mais vous êtes fous, vous pouvez pas le tuer, il y a quelque chose, il faut qu'on le garde. Donc ils ont rajouté une vignette au moment où l'ambulance emmène le corps, et ils ont rajouté une vignette à la fin de la dernière histoire où un infirmier se penche sur le corps et dit, oh, mais il respire encore, il va vivre.
D'accord.
Voilà, c'est inextrémiste. Ils ont vraiment collé cette vignette-là sur un bout de papier où il y avait autre chose dans la case, et ils ont sauvé vraiment à la dernière minute possible le Joker. Maintenant, à la différence de Robin, dont je disais qu'il amenait un petit peu d'optimisme dans la série. Le Joker, c'est de la couleur, c'est vrai, mais on peut pas dire que c'est de l'optimisme.
Mais c'est ce que j'allais dire, finir. Parce que le clown a une symbolique de peur aussi, donc si c'est un personnage...
Et en fait, là aussi, il y a une binarité qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a Batman qui veut faire le bien, mais qui s'habille de manière lugubre, hein, avec les couleurs de la nuit, et puis en chauve-souris, bon, c'est pas forcément... on serait pas rassuré si on le croisait la nuit. Le Joker, lui, s'habille de manière beaucoup plus joyeuse au premier abord, mais cache une envie de faire le mal. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu inverse, quoi. C'est vraiment la version contraire de Batman, et c'est sans doute ce qui fait un petit peu que leur alchimie fonctionne bien.
Mmh. Ok. Donc, au final, Xavier Fournier, vous êtes l'interview touche à sa fin. Vous êtes l'auteur donc du livre. Je suis en train de chercher mon texte. L'auteur du livre Super-héros, l'envers du costume. Donc, vous parlez de Batman, mais aussi, j'imagine, d'autres super-héros. En quelques mots, comment vous pourriez définir ce livre ? Qu'est-ce qu'il retrace, en fait, finalement ?
Dans ce livre-là, moi, je me suis intéressé un petit peu à déminer les super-héros en montrant un petit peu les clichés qui peuvent habiter le genre, parce que avec des questions un petit peu qui peuvent paraître stupides au demeurant, mais qui cachent en général un petit peu un blocage qu'ont eu les auteurs. Par exemple, pourquoi je mets les toilettes dans la Batcave ? Pourquoi il n'y a pas de bat-toilette ? Et ça peut sembler ridicule au demeurant, mais finalement, ça nous amène à la conclusion que Batman, fondamentalement, il ne mange pas. Et je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, il y a tout un processus de la vie normale que Batman ne reconnaît pas dans la Batcave. On peut se demander la question de savoir si Superman et ses collègues, si Spider-Man ou Iron Man payent des impôts. Et à chaque fois, on retombe sur des vieux épisodes où les auteurs se sont posés à cette question-là. On souvent, souvent trouvé une réponse qui peut paraître ridicule, mais qui en même temps reflète aussi des choses de la société occidentale au même moment.
D'accord.
C'est ça qu'on peut dire peut-être aux gens qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu Batman, qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent à travers quelques adaptations et se disent « bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour du personnage ». C'est incroyable, ces histoires de chauves-souris, ça tient pas debout. On est dans le domaine de la parabole, et fondamentalement, ces paraboles-là, elles nous parlent de la société d'aujourd'hui. C'est on aimerait tous avoir quelqu'un d'idéal, un type qui viendrait régler les problèmes de la société en l'espace d'une ou deux nuits, et qui dirait voilà, il y a un problème, je le règle. Et c'est un petit peu la base des super-héros, et en particulier de Batman.
Ouais, parce que en fait, depuis qu'il existe, depuis 80 ans, Batman a une symbolique de super-héros, en fait.
Oui, en sachant qu'en même temps, il n'a pas le moindre super pouvoir. On a un petit peu une espèce de répartition des rôles entre Superman qui est complètement à l'opposé sur le spectre des super pouvoirs qui en déborde complètement, et Batman qui lui à l'huile de coude, on va dire, se débrouille pour faire tout ce qu'il peut. Bon, il a la fortune, ça l'aide un petit peu, mais tout ce que fait Batman, finalement, il le fait grâce à son intellect. C'est vraiment, on pourrait dire, le fils ou le petit-fils de... Tout à l'heure, je parlais du comte de Monte Cristo, mais il a sans doute un autre grand-père du côté de Sherlock Holmes, et il y a d'ailleurs des épisodes où il croise Sherlock Holmes.
D'accord, ok. Ok. Si on veut plus d'informations sur vos travaux, vos recherches, votre travail aussi, où on peut vous trouver?
Eh bien, je serai demain à la boucherie. Non, en fait, vous pouvez aller sur Internet, c'est pas mal, et vous essayez mon site qui s'appelle xavierfournier.com et vous aurez un petit peu la liste de mes livres. Et je fais aussi pas mal de... Je fais aussi, peut-être pour ceux qui s'intéressent plus aux comics de manière régulière, je fais pas mal de chroniques sur les comics sur un site qui s'appelle Comic Box. Voilà.
D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview sur le caractère de Batman lors de cette Bat-émission.